L'hiver fut froid. Les prisons sont mauvaises pour la santé des femmes, reprit Charles de Valois. Et voici longtemps que Marigny ne nous a point informés de l'état de Marguerite. Je m'étonne qu'elle ait pu résister au régime auquel on l'a soumise. Peut-être Marigny, ce serait bien un tour de sa manière, vous cache-t-il qu'elle est près de sa fin? Il conviendrait d'y aller voir. Ils furent sensibles tous deux au silence qui les environnait. Il est précieux entre princes de si bien se comprendre que les paroles cessent d'être nécessaires. « Vous m'aviez assuré, mon neveu, dit seulement Valois après un moment, que vous me donneriez Marigny le jour que vous auriez un pape. Je pourrais vous le donner aussi bien à mon oncle le jour que je serai veuf, répondit le hutin en baissant la voix. Valois passa ses doigts bagués sur ses larges joues couperosées. Il faudrait me donner Marigny d'abord, puisqu'il commande toutes les forteresses, et empêche qu'on entre à Château-Gaillard. « Soit, répondit Louis X, je lève ma main de dessus lui. Vous pourrez dire à votre chancelier de me présenter à signer tout ordre que vous jugerez utile. » Ce même soir, après l'heure du souper, Enguerrand de Marigny, enfermé dans son cabinet, rédigeait le mémoire qu'il avait décidé d'adresser au roi pour réclamer, conformément aux nouvelles ordonnances, gage de bataille. En clair, il allait provoquer le comte de Valois en combat singulier et se trouvait ainsi le premier à demander l'application de ses chartes aux seigneurs contre lesquels il avait tant lutté. Ce fut alors qu'on lui annonça Hugues de Bouville, qu'il reçut aussitôt. L'ancien grand chambellan de Philippe le Bel montrait une mine sombre et semblait tiraillé par des sentiments contraires. « Enguerrand, je suis venu te prévenir, dit-il en regardant le tapis. Ne dors point cette nuit chez toi, car on veut t'arrêter, je le sais.
M'arrêter? C'est un mot jeté au vent. Ils n'oseront pas, répondit Marigny. Et qui viendrait m'arrêter? Je te le demande. Alain de pareil? Jamais Alain n'accepterait d'exécuter un tel ordre. Il soutiendrait plutôt un siège dans mon hôtel avec ses archers.
Tu as tort de ne point me croire, Enguerrand. Et tu as eu tort aussi, je t'assure, d'agir comme tu l'as fait ces derniers mois. Quand on est aux places où nous sommes, travailler contre le roi, quel que soit le roi, c'est travailler contre soi-même. Et moi aussi je suis en train de travailler contre le roi en ce moment pour l'amitié que je te porte et parce que je voudrais te sauver. » Le gros homme était sincèrement malheureux. Serviteur loyal du souverain, ami fidèle, dignitaire intègre, respectueux des commandements de Dieu et des lois du royaume, les sentiments qui l'animaient, tous également honnêtes, soudain devenaient inconciliables.
« Ce que je viens t'apprendre, Enguerrand, poursuivit-il, je le sais par Monseigneur de Poitiers, qui pour l'heure est ton seul et dernier soutien. Monseigneur de Poitiers voudrait mettre de l'espace entre toi et les barons. Il a conseillé à son frère de t'envoyer gouverner quelques terres lointaines, Chypre par exemple.
Chypre » s'écria Marigny. « Me laisser enfermer dans cette île au bout de la mer, alors que j'ai commandé le royaume de France? Est-ce là qu'on veut m'exiler? Je continuerai à marcher en maître sur la terre de Paris, ou bien j'y mourrai !»
Bouville secoua tristement ses mèches noires et blanches.
« Crois-moi, cette nuit ne dors point chez toi, répéta-t-il, et si tu juges ma maison assez sûre asile, fais comme tu voudras, je t'aurai prévenu. »
Aussitôt Bouville sortit. Enguerrand rejoignit dans leur appartement son épouse et sa belle-sœur Chanteloup pour les mettre au courant. Il avait besoin de parler et de sentir la présence de ses proches. Les deux femmes furent d'avis qu'il fallait partir dans l'instant pour quelqu'une de leurs terres, aux confins normands, et puis de là, si le danger se précisait, gagner un port et se réfugier auprès du roi d'Angleterre. Mais Enguerrand s'emporta.
« Ne suis-je donc environné, s'écria-t-il, que de femelles et de chapons ?»
Et il s'alla coucher comme les autres soirs. Il caressa son chien favori, se fit déshabiller par son chambellan et le regarda tirer les poids de l'horloge, objet peu répandu encore, même dans les hôtels nobles, et qu'il avait acquis à grand prix. Il tourna un moment dans sa pensée les dernières phrases de son mémoire au roi et les nota. Il s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau et contempla les toits de la ville éteinte. Les sergents du guet passaient dans la rue des Fossés-Saint-Germain, répétant tous les 20 pas de leur voix machinale « C'est le guet, il est minuit, dormez en paix !» Comme toujours, ils étaient en retard d'un quart d'heure sur l'horloge. Enguerrand fut réveillé à l'aube par un grand bruit de bottes dans la cour et de coups frappés aux portes. Un écuyer tout affolé vint l'avertir que les archers étaient en bas. Il demanda ses vêtements, s'habilla en hâte, et dans l'antichambre,
se heurta à sa femme et à son fils qui accouraient bouleversés.
« Vous aviez raison, Alips, » dit-il à Madame de Marigny en la baisant au front. « Je ne vous ai point assez écouté. Partez dès ce jour, ainsi que Louis.
Je serai parti avec vous en Guérant, mais maintenant je ne saurais m'éloigner du lieu où l'on vous imposera souffrance. »
« Le roi est mon parrain, » dit Louis de Marigny. « Je m'en vais aussitôt courir à Vincennes. Ton parrain est une pauvre cervelle, et sa couronne lui flotte sur la tête !»
répondit Marigny avec colère. Puis, comme il faisait sombre dans l'escalier, il cria
« Holà, mes valets de la lumière, qu'on m'éclaire !»
Et quand ses serviteurs eurent obéi, il fit entre les flambeaux une descente de roi. La cour était houleuse d'hommes d'armes. Dans l'encadrement de la porte, une haute silhouette en côte de maille se découpait sur le matin gris.
« Comment as-tu accepté pareil? Comment as-tu osé ?»
dit Marigny en élevant les mains. « Je ne suis pas Alain de pareil, » répondit l'officier. « Messire de pareil ne commande plus aux archers. » Il s'effaça pour laisser passer un homme en vêtements d'église qui était le chancelier Étienne de Mornay. Comme Nogaret, 8 ans plus tôt, était venu en personne se saisir du grand maître des Templiers, Mornay venait en personne aujourd'hui se saisir de l'ancien recteur du royaume.
« Messire Enguerrand, dit-il, je vous prie de me suivre au Louvre, où j'ai ordre de vous enfermer. »
À la même heure, tous les grands légistes bourgeois du règne précédent, Raoul de Presles, Michel de Bourdonnais, Guillaume Dubois, Geoffroy de Briançon, Nicole Le Loctier et Pierre d'Orgemont étaient arrêtés à leur domicile et conduits en diverses prisons, tandis qu'un détachement était expédié vers Châlons pour y enlever l'évêque Pierre de Latille, l'ami de jeunesse de Philippe le Bel, que celui-ci avait si fort réclamé à son chevet dans ses derniers instants. Avec eux, c'était tout le règne du roi de fer qui entrait en forteresse.